1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission. C'est notre cinquième et dernier rendez-vous autour de la question qui nous préoccupe, protestantisme et laïcité. Pour en parler, je reçois Jean-Paul Willem. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences religieuses, docteur en sociologie également, directeur d'études émérites à l'École pratique des hautes études, et vous avez également la casquette, si je puis dire, de sociologue des protestantismes. Nous sommes ensemble pour parler des relations des églises et de l'État en Europe, plus précisément aujourd'hui. Une première question, c'est celle de la prise en compte des héritages religieux à l'échelle du Conseil de l'Europe. Que fait l'Europe de nos héritages religieux ?
Alors c'est une question intéressante dans la mesure où dans la construction de l'Europe, il y a eu un rôle important joué par les partis de démocratie chrétienne, en particulier en Allemagne, en Italie, mais aussi en France, avec le MRP et Robert Schuman. Mais la question a été posée, la construction de l'Europe est un phénomène tout à fait séculier, on peut dire laïque. L'Europe n'est pas religieuse au niveau de ses institutions, mais on peut poser la question, que fait l'Europe des héritages qui ont contribué à la faire ce qu'elle est aujourd'hui, en particulier toute la sorte de civilisation européenne, marquée plus particulièrement par le christianisme dans la diversité de ses expressions confessionnelles, avec une Europe du Nord plus protestante, une Europe catholique du Sud plus marquée par le catholicisme et une Europe orientale plus marquée par l'orthodoxie, avec aussi des pays biconfessionnels comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse. Donc la question a surgi au moment de la rédaction de textes comme les préambules de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2000 et à propos du préambule du traité de Lisbonne. Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est que lors de la rédaction du préambule de la Charte des droits fondamentaux, il y a eu une querelle franco-allemande. Le président Chirac et le premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, se sont mobilisés pour dire que la mention des héritages religieux dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux était contraire à la laïcité en France et qu'il fallait gommer cette mention. De là, on est passé à une formule, plutôt que s'inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes, on est passé à une formule conscient de son patrimoine spirituel et moral, l'union, etc. Donc on a gommé religieux, on a mis spirituel, on n'a plus parlé de s'inspirant d'eux, mais consciente d'eux.
On a pris un peu de recul.
On a patrimonialisé, en fin de compte, la référence aux religions. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que dans le préambule du traité de Lisbonne, on a retrouvé l'expression qui avait été refusée en 2000 dans la Charte des droits fondamentaux. Et le préambule du traité de Lisbonne se lit ainsi, s'inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles. C'est un préambule extrêmement important, parce que je dirais, c'est le fruit d'un compromis laïque, à savoir qu'on reconnaît qu'il y a aussi des héritages religieux qui ont permis de développer des valeurs universelles, mais on les mentionne à côté d'héritage humaniste, c'est-à-dire séculier, laïque,
oui,
et d'héritage culturel autre. C'est donc une vision, à mon sens, correspondant mieux à l'histoire. Il y a différentes traditions, religieuses et non religieuses, qui ont permis l'affirmation de ces valeurs universelles.
On peut souligner aussi qu'en Europe, il y a diversité de laïcité.
Alors effectivement, alors tout d'abord, on peut remarquer que le mot même de laïcité est plus utilisé dans les langues latines d'Europe, laicita en italien, laicidad en espagnol, et donc des pays qui ont été marqués par une présence de l'État et d'une de l'Église catholique comme interlocuteur religieux. Alors que dans les pays en Allemagne ou dans les pays d'Europe du Nord, le mot laïcité n'est pas employé dans ces langues, difficile donc à traduire. Il y a différentes laïcités en Europe, en particulier en Belgique, avec ce qu'on appelle en Belgique la laïcité organisée. Parce que le paradoxe en Belgique, c'est un pays tout proche avec une partie francophone, mais la laïcité organisée, c'est en fin de compte le septième culte reconnu en Belgique. Si vous êtes malade à l'hôpital, vous pouvez demander l'assistance d'un aumônier catholique, protestant, juif, musulman, mais vous pouvez aussi demander l'assistance d'un conseiller spirituel laïque. Et donc, de même, si vous êtes en prison, etc. Donc, c'est ce que les Belges appellent la laïcité organisée, qui est une vision de l'homme et du monde non religieuse, mais qui est placé à côté des autres cultes. Donc la laïcité en Belgique, ce n'est pas le concept englobant, c'est une orientation non religieuse, philosophique, posée à côté des cultes. Et au point de vue universitaire, il y a l'Université catholique de Louvain, il y a l'Université libre de Bruxelles, qui est franc-maçonne et libre-penseuse. Donc, c'est un schéma tout à fait différent. Mais si maintenant on se transporte dans un pays biconfessionnel comme l'Allemagne, très marqué par le protestantisme, on peut le rappeler au moment où on fête le 500e anniversaire de la réforme.
Tout à
D'ailleurs,
fait.
Ça a donné l'occasion d'un discours de Joachim Gauck, le président de la République fédérale, qui a, en tant que président de la République, expliqué en quoi la réforme avait été un événement important pour toute l'Europe. On voit qu'en Allemagne, il y a une séparation Église-État, mais c'est une séparation que l'on pourrait plutôt qualifier séparation-partenariat, parce que les églises, et pas seulement les églises chrétiennes, sont reconnues comme des corporations de droit public, participant à un certain nombre de missions publiques. Et dans certains Länder, dans certaines régions en Allemagne, les buts de l'enseignement public sont définis en termes aussi en référence à l'héritage occidental chrétien. Donc il y a une reconnaissance beaucoup plus forte, beaucoup plus marquée de l'apport des religions dans l'espace public, avec des cours de religion à l'école, des facultés de théologie dans les universités catholiques et protestantes, mais aussi maintenant avec des instituts concernant l'islam dans différentes universités allemandes.
Est-ce que c'est encore très différent dans les pays scandinaves ?
Alors les pays scandinaves, c'est intéressant parce qu'ils sont à dominante protestante luthérienne, et ça peut paraître un paradoxe où en France, la minorité protestante a été très fortement en faveur de la laïcité, de la séparation des églises et de l'État, alors qu'en Norvège, en Suède et au Danemark, il y a eu très longtemps, et il y a encore aujourd'hui au Danemark, un lien entre l'État et l'église luthérienne. Il y a eu séparation de l'église luthérienne et de l'État en Suède en l'an 2000 seulement, en 2012 en Norvège. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que même s'il y a une séparation entre, par exemple, l'église norvégienne, l'église luthérienne norvégienne et l'État norvégien, après cette séparation en 2012, je prends note que le Parlement norvégien, tout en votant la séparation, n'en a pas moins souligné que l'église norvégienne continuera à occuper une place particulière dans la constitution du pays, laquelle précise que l'État repose sur notre héritage chrétien et humaniste. On voit donc que c'est une séparation, mais dans un autre climat, dans un autre type de relation entre l'État et la religion dominante, en l'occurrence le protestantisme luthérien. Et en Suède, ça n'empêche pas l'État d'aider des communautés religieuses qui contribuent à faire respecter et à consolider les valeurs essentielles sur lesquelles repose toute la société. Autrement dit, ce sont des modèles de séparation Église-État, mais qui sont ouvertes à la contribution des églises, des groupes religieux, lorsqu'elles participent au bien commun.
Est-ce qu'on peut dire que le protestantisme porte en lui la distinction entre Église et État, entre finalement pouvoir spirituel et pouvoir temporel ?
Ah ben, comme j'avais tenu à le souligner lors de notre première émission, il y a une dimension anticléricale dans le protestantisme et donc un attachement très profond à la distinction du spirituel et du temporel, même si dans l'histoire, notamment après la réforme 16e siècle dans l'ère germanique, il y a eu un rôle très important des autorités politiques dans l'organisation des églises dans le modèle luthérien. Mais ça a été plus affirmer cette volonté de bien séparer dans la tradition calviniste et en plus dans la tradition baptiste, toutes les églises évangéliques en faveur d'une séparation Église-État.
Jean-Paul Willem, sur quelle définition de la laïcité nous pourrions conclure ? Est-ce que vous pourriez nous donner la vôtre, par exemple ?
Alors, même si on ne parle, même si on n'emploie pas le mot laïcité dans d'autres langues européennes que latines, avec en plus quelques réserves, mais ce qui est important de noter, c'est que la laïcité, on peut parler de laïcité européenne sur la base de ces trois grands principes. Un premier grand principe de liberté. Liberté d'avoir une religion ou de ne pas en avoir. Liberté de pouvoir changer de religion. Donc c'est la liberté de conscience, la liberté de culte, et la liberté religieuse, avoir ou non une religion et la pratiquer comme on le souhaite, modérément, plus régulièrement, etc. Deuxième grand principe, un principe d'égalité. Égalité de traitement, non-discrimination des personnes selon leur opinion religieuse ou leur opinion non religieuse. C'est un principe très important dans tout dispositif européen,
oui.
Le principe de non-discrimination. Traitement égal, qu'on ait une religion, qu'on n'en ait pas, qu'on ait telle religion ou telle autre religion. Et le troisième grand principe, l'autonomie respective du politique et du religieux, l'indépendance de l'État par rapport aux religions, l'indépendance des religions par rapport à l'État, et ce qui n'est pas incompatible avec différents systèmes de relations religion-État construits par l'histoire et marqués par les singularités des différents pays d'Europe. Car si on parcourt l'Europe, on découvre qu'il y a, selon les traditions nationales, régionales, différents systèmes de relations Église-État, où ces trois grands principes peuvent néanmoins être respectés, même s'il y a dans plusieurs pays des systèmes de culte reconnus, mais reconnu parce que certains acceptent de contribuer à des objectifs communs où l'État reconnaît la contribution de ces groupes religieux à des objectifs communs qui sont communs à tous, aux populations religieuses comme aux populations non religieuses.
Merci Jean-Paul Willem de nous avoir fait voyager dans le temps, dans l'espace, pour nous permettre de mieux comprendre les relations entre protestantisme et laïcité. Merci d'avoir été avec nous.
Mais je vous en prie, merci. C'est un paysage riche et complexe, mais j'espère avoir éclairé quelque peu ces différents aspects.
Merci et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. À bientôt.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme, protestants 2017, vivre la fraternité.